Ok, Shavua Tov. Je vous ai annoncé trois histoires. Vous aurez trois histoires. Ce sont trois histoires que vous connaissez. Mais on dit que les enfants, ils aiment bien qu'on leur raconte tout le temps la même histoire. Je vais raconter trois histoires que vous connaissez. La première histoire, c'est une histoire qui a à voir avec notre identité la plus profonde. C'est l'histoire durant laquelle le clan Israël a reçu son nom d'Israël. C'est l'histoire bien connue. Yaakov Avinu va rencontrer Esav. Comme vous le savez, il s'est préparé de trois manières. Il s'est préparé à le rencontrer. Il s'est préparé par la prière. Il s'est préparé en essayant de l'apaiser avec des cadeaux. Et il s'est préparé, le cas échéant, à faire la guerre. Et pour ce faire, il a partagé ses gens et ses biens en deux, en espérant qu'au moins un des deux camps survivrait. Cette rencontre, il l'appréhende parce que vous vous souvenez que avant que Yaakov quitte la maison de son père, il y avait eu l'épisode des brachot que Yaakov a prises et que a priori Esav aurait dû recevoir. Encore auparavant, il y a eu le problème de la Bechora, du titre de premier-né, et toute la avoda qui va avec, que Yaakov a acheté pour le fameux plat de lentilles qu'il a acheté d'Esav. Et donc, quand Esav s'est aperçu que Yaakov avait pris les brachot, il avait le projet de tuer Yaakov, vous vous souvenez, il a envoyé Eliphaz, son fils, qui a rattrapé Yaakov. Eliphaz était aussi l'élève de Yaakov. Et quand il l'a rattrapé, Yaakov lui a demandé « qu'est-ce que tu fais là ?» Il a dit « mais je suis venu te tuer ». Bon. Alors, ils ont discuté. Comme il était son élève, il a accepté la proposition que Yaakov lui a faite en lui disant que tuer quelqu'un, on peut le tuer, par exemple, économiquement. Et donc, si tu me dépouilles complètement, j'aurai un statut de ani, de pauvre. Et ani chashuv kemet, quand quelqu'un est complètement démuni, il est, évidemment, il est économiquement mort. Et ça suffit. C'est ce qu'Eliphaz a fait. Et comme je le rappelle régulièrement, on ne voit nulle part que Esav ait fait un reproche à Eliphaz de ne pas avoir planté un coup de couteau dans le cœur de Yaakov. Il a tout à fait admis que le mode d'exécution de son ordre « tue-le » pouvait être « tue-le économiquement ». Et donc, maintenant, Yaakov il vient de passer par une vingtaine d'années chez Laban. Il s'est marié. Il a eu une grande famille. Il revient maintenant chez son père. Et en chemin, il va rencontrer Esav. C'est lui qui provoque la rencontre. Et en même temps, bon, il a très peur des suites. Qu'est-ce qui va se passer? Et donc, je vous ai dit comment il s'est préparé. Et il a partagé ses gens et ses biens en deux. Il a fait en sorte que tout le monde franchisse la fameuse rivière qui s'appelle Yavok. Il venaient d'est vers l'ouest. Ils ont franchi le Yabok et Vaivater Yaakov Levado. Et à un moment donné, Yaakov s'est retrouvé tout seul, ben, très simplement, il s'est tout seul parce qu'il a mis, tout le monde d'un côté, en deux camps, et puis ensuite, lui, il s'est éloigné, et donc il s'est retrouvé tout seul, évidemment, puisqu'il s'est coupé des autres. Et à ce moment-là, vaillé avec Ish, un homme est venu qui a lutté avec lui. Ils ont lutté toute la nuit. L'homme en question n'a pas réussi à battre Yaakov. Il lui a dit, au matin, il lui a dit, laisse-moi partir. J'ai fini ma mission. Je dois aller rendre compte à Hachem. Yaakov a dit, je te laisse pas partir avant que tu me donnes une bracha. Et la bracha qu'il lui a donnée, c'est, il lui a changé son nom. Il lui a dit, tu t'appelais Yaakov, on va t'appeler Israël. Dans Yaakov, il y a la connotation Ekev, talon, tordu aussi. Alors que dans Israël, il y a la connotation Yachar, droit. Donc quelque part, le nom d'Israël, le nouveau nom d'Israël, le nouveau nom de Yaakov, qui va être finalement notre nom à nous. Nous ne sommes pas Bnei Avraham ni Bnei Yitzhak, nous sommes Bnei Israël. Nous ne sommes pas non plus Bnei Yaakov, nous sommes Bnei Israël. Le peuple, c'est le Ham Israël, Daber el Bnei Israël, Kotomar l'Ibnei Israël, etc. Ça, c'est la première histoire. Évidemment, on va y revenir. Il y a une deuxième histoire. La deuxième histoire, elle concerne Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est un... personne qui risque sa peau en Égypte, il s'enfuit et il devient berger de Yitro, qui par ailleurs devient aussi, Yitro devient son beau-père. Et un jour, en faisant paître les troupeaux de son beau-père, il voit un buisson qui brûle, mais il y a du feu, mais le buisson ne se consume pas. Alors, il va voir de plus près, et Akadosh Baruch Hu lui parle et lui dit, voilà, les Bnei Israël ont assez souffert, et je t'envoie pour libérer les Bnei Israël. Tu vas aller parler à Paro, et tu vas lui dire, Shalach, renvoie mon peuple, libère mon peuple. Et Moshe Rabbeinu dit non. C'est pas possible. Je peux pas faire une chose pareille. Qui suis-je pour aller, moi, parler à Paro? Qui suis-je pour aller libérer, moi, les Bnei Israël? Je peux pas. Je peux pas. Alors Hachem lui dit, je t'envoie. Alors Moshe Rabbeinu lui dit, mais je ne sais pas parler. Hachem lui dit, qui est-ce qui fait en sorte que quelqu'un sache parler ou non? C'est moi. Bon, finalement, Moshe Rabbeinu dit... Il n'est pas encore Moshe Rabbeinu à ce moment-là, mais bon. Moshe Rabbeinu dit à ce moment-là, il dit, Shlach na biyad tishlach. On voit quelqu'un d'autre. Et Hachem s'est fâché contre Moshe Rabbeinu. Alors, il y a une lecture qui dit que, à la suite de cela, c'est quelque chose dont on a déjà parlé. À la suite de cela, Moshe Rabbeinu, qui aurait dû être à la fois le manig, le roi du clan d'Israël, et également le Kohen Gadol, que Moshe Rabbeinu à ce moment-là a perdu la Kehuna Gdola, qui a été donnée à son frère Aaron. Certains disent que c'est ça la colère divine. En fait, il y a un autre épisode. Quand finalement, Moshe Rabbeinu a cédé, et il a pris Tzipora, son épouse, et son fils, et ils se sont mis en marche pour l'Égypte. Et bon, ils ont fait une étape, ils se sont arrêtés dans un hôtel, on ne connaît pas la marque, on ne connaît pas le... Et puis, il s'est passé quelque chose d'assez terrible. Il y a quelque chose, un serpent, quelque chose, une espèce de truc qui était en train d'avaler Moshe Rabbeinu. Il était en train de manger Moshe Rabbeinu en venant d'en bas et par en haut, etc. Et Tzipora a compris qu'il y avait là un grand problème. Il y avait un problème, c'était que Moshe Rabbeinu n'avait pas fait la mila de son fils. La raison pour laquelle il ne l'a pas faite, c'est que il s'est dit, je ne peux pas faire la mila de mon fils, et puis ensuite, on s'en va dans le désert, c'est dangereux, problème de sakana. Et d'un autre côté, je ne peux pas rester, faire la mila et rester le temps qu'il faudra pour que l'enfant se remette, parce qu'Hachem m'a envoyé, je dois partir tout de suite. Donc il a remis à plus tard la mila. Certains disent qu'il aurait dû le faire dès qu'il est arrivé dans cet hôtel où ils ont fait une étape. Il aurait dû commencer à faire cela immédiatement et pas se préoccuper de s'installer dans cet hôtel. En tout cas, à ce moment-là, Tzipora a très bien compris ce qui se passait. Elle a pris un objet tranchant et elle a fait la mila de l'enfant. Et du coup, Moshe Rabbeinu a été sauvé. Il faut dire que c'était un gros enjeu. Il ne s'agit pas seulement de la personnalité de Moshe Rabbeinu, mais Chazal l'ont dit de toutes sortes de façons. Il n'y avait que Moshe Rabbeinu qui pouvait faire sortir les Bnei Israël de Mitzrayim. Si Moshe Rabbeinu disparaît, nous ne sortons pas d'Égypte. Donc il n'y a pas de peuple juif, quoi. Rien que ça. Il y a une troisième histoire. La troisième histoire, c'est l'histoire de Yona Hanavi. Le prophète Yona, dont on lit la prophétie Mincha de Yom Kippourim, comme Haftara. Yona reçoit un ordre d'Hachem qui lui dit, tu vas aller à Ninvé. Ninvé, c'est Ninive, c'est la grande ville de l'Empire assyrien. Les Assyriens, c'est les ennemis d'Ibn Israël. Les Assyriens, c'est ceux qui ont exilé 10 des 12 tribus. C'est ça, les Assyriens. Et Yona reçoit un ordre. Tu vas aller parler aux gens de Ninive, de Ninvé, pour qu'ils fassent tchouva. Et Yona sait, il comprend que les gens de Ninvé vont faire tchouva et que cette tchouva des gens de Ninvé sera une accusation contre les Bnei Israël. Parce qu'eux, ils auront fait tchouva après qu'on leur ait envoyé un prophète. Les Bnei Israël ont déjà une quarantaine de prophètes qui viennent régulièrement rappeler aux Bnei Israël qu'ils doivent faire tchouva. Les Bnei Israël ne font pas tchouva. Alors, Yona dit, si je réussis dans ma mission, ça va être une accusation extrêmement grave, difficile à supporter, contre le peuple juif. Et il ne veut pas en être. Alors il pense qu'il y a une façon d'échapper à cet ordre qui lui est donné. La règle générale, c'est qu'il n'y a pas de prophétie en dehors d'Eretz Israël. Alors il y a une voix, dit Heskel, qui contredit la règle générale. Mais en tout cas, sur la mer, donc pas sur terre. Sur terre, il y a des exceptions. Mais sur mer, il n'y a pas d'exception. Sur mer, en dehors d'Eretz Israël, il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de prophétie. Et donc, il cherche un bateau, il trouve un bateau qui part pour Tarshish. Et puis, le reste, vous connaissez. Quand je vois quoi, on voyait quelque chose qui ressemble à un tsunami. Aujourd'hui, on dit comme ça. À ce moment-là, c'était seulement une tempête. Et le bateau va sombrer. Bon, il y a toute une procédure. Et puis finalement, Yonah leur dit, écoutez, c'est à cause de moi, tout ça. Mais est-ce que la seule solution qu'il y a, c'est que vous me jetiez à la mer. Bon, les gens étaient des gens sérieux, ils n'avaient pas tellement envie de jeter quelqu'un à la mer. Ils ont essayé de redresser le bateau, etc. Ils n'ont pas réussi. Alors on a jeté Yonah à la mer. Yonah a été avalé par un poisson. Il a fait un séjour dans le poisson. Puis le poisson l'a recraché. Et il a bien dû aller accomplir sa mission. Voilà trois histoires. D'accord, personne n'est surpris, c'est des histoires connues. Je reprends la première. Vaivater Yaakov levado. Yaakov se retrouve seul. Le Rashbam. Rashbam, c'est le petit-fils, c'est un des petits-fils de Rashi. Rashi, il avait trois filles. Et sa fille Yochebed a épousé un certain Rabbi Meir. Et ils ont eu un enfant qui s'appelle Shmuel. Shmuel ben Meir. Rabbi Shmuel ben Meir, ça donne les initiales Rashbam. Le Rashbam est un des grands commentateurs de la Torah. Il est connu comme étant tout à fait exceptionnel dans sa façon d'expliquer les psukim en collant au texte. Il a même repris son grand-père. Le grand-père en question, c'est Rachid, hein, c'est pas n'importe qui. Il a repris son grand-père à un endroit où il lui a dit que ce que lui disait Rachid, c'est pas vraiment le pshat. Et Rachid était d'accord, et Rachid aurait dit que s'il avait eu le temps, il aurait réécrit un commentaire un peu plus proche du pshat. Mais il n'a pas besoin de le faire, Rashbam l'avait fait. Donc, alors le Rashbam, il lit de façon un peu révolutionnaire. Donc, il est seul. Il est seul parce qu'il a fait passer tout le monde de l'autre côté du Yabok, tous ces gens et tout ce qu'ils possèdent. Et le Rashbam dit, il voulait passer le dernier. Parce que il avait l'intention de fuir. Il ne voulait pas rencontrer Ésaü. Yaakov Avinu avait peur. Il ne voulait pas rencontrer Ésaü. Il a réfléchi, il s'est dit, Ésaü, il a un problème avec moi. Il n'a pas un problème avec toute la famille, avec tous les enfants, etc. Je vais disparaître. Ésaü ne pourra pas me retrouver. Et le clan d'Israël continuera avec les enfants. Ça, c'est le chidouche de Rashbam. Alors, il y a un ish qui est venu et qui a lutté contre lui, n'est-ce pas? Le verset dit, « Vayavek ish imo, andalot ha-shachar. » Alors le Rashbam dit, il y a un malach. Pour lui, ish c'est un malach, c'est un ange. C'est un envoyé d'Hachem. Qui lutte avec lui, pourquoi? Pour l'empêcher de fuir. On veut que Yaakov comprenne qu'Hachem lui a promis que Ésaü ne lui ferait pas de mal. Il lui a promis. Et Yaakov, néanmoins, il a peur. Alors, ils ont lutté toute la nuit. Et l'ange a vu qu'il n'arriverait pas à l'arrêter. Alors, il l'a empêché de fuir en le handicapant. Il lui a déboîté la hanche pour l'empêcher de fuir. À ce moment-là, Yaakov comprend qu'il n'a pas affaire à un homme, mais que c'est un ange. Ça veut dire que c'est un phénomène tout à fait spécial que Hachem lui a envoyé. Et du coup, il demande à cet ange qui voulait, a priori, le tuer. Enfin, c'est ce que Yaakov pensait. Il lui dit, Berachtan, je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. Rashi dit, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle bénédiction il veut? Alors Rashi dit, ça c'est Rashi, on recourt au grand-père. Rashi dit, je veux que tu reconnaisses que les brachot sont à moi. Les brachot qui sont contestées par Ésaü, je veux que tu reconnaisses qu'elles sont à moi. Et il lui dit, l'ange répond, quel est ton nom? Alors, je ne sais pas si c'est une figure rhétorique, je sais pas, si l'ange ne savait pas quel était son nom. Enfin, il voulait qu'il lui dise que son nom c'est Yaakov, ce qu'il lui a dit. Alors il lui a dit, voilà, ce ne sera plus ton nom Yaakov, tu vas t'appeler Israël. Et il dit pourquoi? Pourquoi Israël qui s'arrita? Parce que tu as lutté et tu as gagné. Et là, le Rashbam dit quelque chose de qui va faire le lien entre les trois histoires. Le Rashbam dit, donc, il reporte que, Rashi dit aussi comme ça, que il a blessé Yaakov pour que Yaakov ne puisse pas fuir, parce qu'il y avait une promesse d'Hachem que qu'il lui arriverait rien. Et lui, il était en train de fuir. Il n'est pas à la hauteur de la promesse qu'Hachem lui a faite. Et il dit, le Rashbam dit, « V'chein matzinu, b'chol ha'olchim b'derech shelo birtzon ha'kadosh baruch hu. » O, me'ma'anim l'alechet, shen'a'enshu. On trouve de même que tous ceux qui utilisent un chemin, empruntent un chemin qui n'est pas le chemin qu'Akadosh Baruch Hu veut qu'ils empruntent, ou qui refusent de bouger même, tous ceux-là ont été punis. Et le Rashbam dit, Moshe Rabbeinu a été puni, c'est la deuxième histoire que je vous ai racontée. Alors le Rashbam dit, quand Moshe Rabbeinu a dit à Hashem, Shlach na biyad tishlach, envoie qui tu veux, pas moi. Pasuk dit après, Vaichar af Hashem be Moshe. Kadosh Baruch Hu s'est mis en colère contre Moshe Rabbeinu. Et le Rashbam dit, Ulfi apshat, le pshat. Le sens premier du verset. Shiamru Chachamim, les Chachamim ont dit dans la Gemara, dans Zvachim, ils ont dit que la sanction, c'était Bechol Makom Charonaf Ose Roshem. Quand la Torah dit qu'Akadosh Baruch Hu se met en colère, ça fait une trace. C'est pas Akadosh Baruch Hu s'est mis en colère, c'est pas bien, mais non, il y a une trace dans le monde. Et là, ils disent, les Chachamim disent dans Maseret Zvachim, « Vekan ma roshem yesh ?» Quelle est la trace qu'il y a dans cette affaire-là? Alors, la Gemara, elle cite la première explication que je vous ai donnée. « Allo Aaron achicha levi, atidu liot levi veata kohen. » En vérité, lui devait être Lévi, Aaron. Et toi, tu devais être Cohen, grand prêtre, en fait. Ve'achshav, ou yé Cohen, ve'ata Lévi. Donc, dans la Gemara, on présente la sanction, la trace de la colère divine dans la permutation sur la Keuna Gdola de Moshe et d'Aaron. C'est-à-dire que Aaron a pris la place de Moshe. Mais le Rashbam n'est pas content. Le Rashbam dit, « Ach lefi apshat, lefi shaya mitatzel lalechet, comme, en fait, le pshat, c'est autre chose. Comme Moshe Rabbeinu, c'est vrai qu'il y est allé. Il est allé, finalement. Mais, ya mitatzel lalechet. Je sais pas, il faut être le Rashbam pour pouvoir dire ça sur Moshe Rabbeinu, mais bon. Il dit que c'était atzlut. C'est une forme de paresse. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il n'est pas allé avec toute la force, la puissance, peut-être même la joie, qui aurait dû être la sienne, parce qu'Hachem l'a choisi. Hachem l'a investi d'une mission extraordinaire. Sortir les Bnei Israël de Mitzrayim. Alors, Vahi baderech bamalon, Vahi v'gesheu, etc. Vahi v'akesh amito. Le Rashbam dit, la sanction c'est ça. La sanction c'est que Moshe Rabbeinu était en situation de mourir. Il était en train de mourir. S'il n'avait pas été sauvé par Tzipora, il serait mort. Et le Rashbam continue, et il dit, V'chen be'yona, de même pour Yona, c'est la troisième histoire que je vous ai racontée. V'chen be'yona, shenivla bim'ea daga, qui a été avalé par le poisson. Et il en ramène une autre, je n'ai pas voulu entrer dans celle-là. Il dit, c'est la même chose avec Bilam. Bilam aussi, il veut pas prendre le chemin qu'Hachem veut qu'il prenne. Donc quand Vaïchar Af Elohim ki olechu, Hachem lui a dit, je veux pas que tu ailles avec ces gens, tu dois pas répondre positivement à l'invitation de Balak. Et il y est allé quand même, et c'est marqué, Hachem s'est mis en colère, donc il y a un rochem, il y a une trace, et la trace chez Bilam, c'est Vayeler Shefi Chiger. Il a été lui aussi affecté, il s'est mis à boiter, il ne pouvait plus marcher normalement. On a trois cas. Trois cas à des époques et des situations complètement différentes. On a Yona qui est à l'époque de la prophétie. Et c'est une prophétie qui s'adresse au Goyim. Enfin, la prophétie de Yona est une prophétie tout à fait hors norme. Parce que celle-là, elle s'adresse uniquement aux gens de Ninevé. Elle s'adresse aux gens de Ninevé pour leur faire faire tshuva. Il y a un souci d'Hachem que les gens, les ennemis d'Israël, fassent tshuva et ils vont faire tshuva. Ils vont prendre les paroles de Yona très au sérieux. Ils vont décréter des mesures très radicales, ils vont obliger même leurs animaux à porter à se revêtir de sacs, etc., comme tous les signes du deuil, du repentir, ils ont fait tshuva. Et quand vous connaissez l'histoire avec le kekayon, avec le caroubier, etc., de Yona, Hachem lui a dit, on ne peut pas laisser partir comme ça une ville entière. Plusieurs, c'est écrit que Ninevé avait plusieurs dizaines de milliers d'habitants. C'est une grande ville pour l'époque. Il faut s'en occuper aussi. Et même si ça fait du mal au clan d'Israël, je t'ai ordonné d'y aller, tu dois aller. Bon, il y a une obligation d'obéir à Hachem. Si on regarde, les trois personnages ont été empêchés de transgresser complètement, en fait. Ils ont été empêchés de fuir. En fait, il y a plusieurs façons de fuir. On peut fuir comme Yaakov voulait fuir. Je vais disparaître de la circulation. Et ça ne me trouvera pas. Mon cher Rabbeinu, je bouge pas, je n'y vais pas. Et Yona, lui, il va jusque là-bas, mais il veut pas leur parler. Ils ont été empêchés de trois manières. Yaakov Avinu a été empêché par un malach min hashamayim. Moshe Rabbeinu a été empêché par effectivement une manifestation, et il a été obligé d'en arriver pour faire ce qu'il fallait faire. C'est sa femme qui l'a sauvé. Sa femme qui a fait que Moshe Rabbeinu n'a pas pu aller jusqu'au bout de ce qui était probablement son projet, qui était il voulait pas y aller. Mais Tzipora l'a mis en situation de pouvoir y aller. Et ensuite, Yona, lui, il a été amené à comprendre par lui-même. Hachem lui fait une démonstration avec le caroubier, etc. Il lui fait une démonstration. Donc, trois façons différentes de faire la leçon à celui qui veut fuir, à ceux qui voulaient fuir, pour leur montrer qu'on ne peut pas fuir, quand on a reçu un ordre d'Hachem. La fuite n'est pas quelque chose d'inacceptable. Rashi, Chazal disent que la préparation à la guerre de Yaakov Avinu, préparer à la guerre, et Chazal disent, c'est préparer à la fuite. Chazal disent déjà ça aussi. Déjà que, il y a un Chazal qui dit que c'était la fuite. Il y avait déjà toutes ces préparations, c'était la fuite. Mais voilà, la fuite comme pas obligatoirement une fuite dans la débandade, une fuite organisée, un retrait. Souvent, on fait un retrait pour revenir d'une meilleure façon. Je ne vais pas parler maintenant de l'éloge de la fuite, mais il y a une valeur à la fuite. En réalité, il y a une leçon, évidemment. La leçon, c'est que même les plus grands, Yaakov Avinu, Moshe Rabbeinu, Yona Hanavi, c'est la crème de la crème. Même les plus grands ont des envies de fuite. Même les plus grands ont peur de ce qui leur est assigné comme mission. Même eux. Donc, il n'y a pas à avoir honte d'avoir peur, d'avoir envie éventuellement de fuir. Mais on a une mission et on doit aller jusqu'au bout de sa mission. C'est parce que cette mission, c'est Hachem qui nous l'a donnée. On nous montre que ces trois qui sont, comme je vous ai dit, la crème de la crème, ils ont un rôle à jouer, mais ils ne sont pas les seuls. Leur rôle à eux, il est mis en évidence dans la Torah, dans le Tanakh, on voit. Mais on a tous un rôle à jouer. Le clan Israël a un rôle à jouer dans l'histoire. On voit même que le clan Israël a un rôle à jouer qui parfois consiste à aller faire tshuva à Nineveh. Il n'y avait rien d'autre à faire à ce moment-là. Il y en a et puis on ne pouvait pas lui donner une autre mission. Qu'est-ce que ça change? On a besoin que Nineveh fasse tshuva. C'est notre problème. Oui, c'est notre problème. Parce que Hachem a dit que c'était notre problème. Ce n'est pas évident. Nous, on n'aurait peut-être pas dit ça. On n'aurait pas dit que c'est ça notre premier problème à l'époque de Yona. Mais Hachem nous a enseigné autre chose. Oui, c'était ça la mission. On a souvent, chez Moshe Rabbeinu, c'est assez clair. Moshe Rabbeinu, mais qui suis-je? Je ne suis rien du tout. Comment, moi je vais aller sortir les Bnei Israël de Mitzrayim. Moi, je vais aller parler à Paro. je suis personne. Après, il a d'autres arguments, je ne sais pas parler, etc. Mais l'argument massu, c'est qui je suis? Pourquoi me donne à moi une tâche pareille? Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix et on est obligé de le faire. Chacun reçoit une mission. On est né. Dans le clan d'Israël avec des missions. On a choisi à un moment donné d'appartenir au clan d'Israël et donc d'assumer certaines missions. Et même si à certains moments ça nous paraît au-delà de nos forces, il faut savoir que si Hachem nous donne cette mission, c'est qu'on peut le faire. On est à la hauteur. C'est pas pour s'enorgueillir. C'est pour se dire oui. Même si je ne vois pas comment moi, le qui suis-je, tout le monde peut se le dire, qui suis-je. Ouais. On a des tâches à faire, on doit sanctifier, on doit dire la louange d'Hachem, même dire la louange d'Hachem, qui on est pour dire la louange d'Hachem. C'est pas évident de dire la louange d'Hachem. Comme dit la Gemara, si Moshe Rabbeinu n'avait pas dit « Akel, Agadol, Agibor et Anoran », nous on ne le dirait pas. Parce que comment dire la louange d'Hachem? C'est une louange qui est obligatoirement infinie et comment on peut se permettre de faire une liste finie des louanges pour Hachem. Alors on explique halakhiquement qu'avec Baruch She'amar et Ishtabach, on a le droit de dire les teilim qu'on dit dans la tfila, avec ces brachot qui nous permettent, enfin qui sont censés obtenir la permission, de faire obtenir la permission de dire ces louanges. La question, elle est sur David Amelech aussi, hein. Pourquoi il en a dit 150? Il s'est arrêté au bout de 150. En fait, il a choisi 150. Il en avait fait plus. Même s'il en avait fait 3000, et qu'il a fait une sélection de 150. Mais 3000, pourquoi il s'est arrêté à 3000? La Gemara, elle raconte l'histoire d'un maître qui a commencé à dire les louanges d'Hachem. Il a commencé. Et au bout d'un moment, il s'est arrêté, alors il a dit, c'est terminé, quoi. Il a dit, oui. Non, ça veut dire quoi? Je t'imagine que tu as fait le tour de la question. Mais si on dit trop peu de louanges de quelqu'un, ben, c'est un lèse-majesté. Ça va faire de lui le roi des mouches. Kidshanu be mitzvotav. Hakadosh Baruch Hu nous a sanctifiés par ses mitzvot. C'est-à-dire, il nous a mis à part. Sanctifié, ça veut dire mettre à part. Il nous a mis à part. Vetzivanu, et après nous avons mis à part, il nous a dit, fais cette mitzvah-là. C'est comme ça qu'on fait les brachot, hein, sur les mitzvot. Vetzivanu, Tadik, Ner Chanouka, Ner Shabbat. Il faut savoir, c'est ça la leçon, que ce qui nous est demandé, c'est à la fois énorme, mais ça dit aussi la grandeur de l'homme. Ça dit combien l'homme est grand. Pour qu'Akadosh Baruch Hu lui confie des missions. Et je pense que les leçons sur la fuite que nous donne ici le Rashbam sont une notion absolument fondamentale pour que on soit bien conscient que le problème que je pense que tout homme, toute femme, à un moment donné, doit se demander, mais qui suis-je pour faire tout ce qu'on me demande de faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire, là? Le monde, il dépend de ça, le monde dépend de ma conduite, mais qui suis-je pour ça, pour avoir tellement d'importance? Comme on dit, nous ne sommes rien, mais nous sommes ce rien auquel Akadosh Baruch Hu a donné des mitzvot. Et c'est ça, notre grandeur, notre obligation d'être à la hauteur. Shabbat shalom. Non, c'est bon. Shavua tov.